Donc, je suis ingénieure de recherche à l'INRA. J'ai un parcours un peu qui n'est pas linéaire, parce que j'ai commencé en 1983 avec les producteurs de choux en Bretagne. J'étais financée pendant, mon salaire a été financé pendant 16 ans par le Comité économique fruits et légumes de Bretagne pour produire pour les producteurs bretons des variétés de choux-fleurs hybrides pour l'agriculture conventionnelle. Mais néanmoins, étant attachée à une région, à un terroir, c'était quand même l'occasion de découvrir comment une agriculture de terroir pouvait fonctionner. Et aussi, comme on fonctionnait, on produisait la semence sur place, on pouvait s'affranchir de toutes les techniques modernes, telles que les CMS ou des choses comme ça. Donc j'ai quand même travaillé pour les Bretons à partir de produits de terroir pour faire des hybrides qui restaient de terroir. Et pendant cette période, j'ai quand même pris connaissance de tout ce qui se faisait en bio, parce que dès la prépa, c'est la bio qui m'intéressait. Et en 2000, déjà en 1999, j'ai réussi à rentrer à l'INRA par un concours. Donc je suis maintenant ingénieure de recherche à l'INRA. Et dès 2000, j'ai pu élargir le cercle des gens pour qui je travaillais, parce qu'étant financée par CRFL, je ne pouvais travailler que pour des agriculteurs conventionnels. J'ai travaillé pour tout le monde, et notamment alors pour les bio, et aussi pour les sélectionneurs privés, parce que je vais faire une petite parenthèse qui peut peut-être vous intéresser. En 1994-95, on a dénoté dans les champs de choux-fleurs, des choux-fleurs hybrides. On avait un gros problème pour les sélectionneurs, c'était l'inscription catalogue des variétés, justement ces variétés hybrides et fins qui sont 100%, qui doivent être théoriquement très homogènes. On avait noté au milieu de ces champs des plantes complètement dites aberrantes et qui faisaient monter le taux de plantes hors type et qui bloquaient l'inscription catalogue. Et en 1994, il y a eu un problème. On ne pouvait plus inscrire, un grand nombre de variétés n'ont pas pu être inscrites. Et là, j'ai été sollicitée aussi par les sélectionneurs pour essayer de comprendre quelles étaient ces plantes. Je les appelais les plantes folles ou les plantes aberrantes, c'était à l'époque de la vache folle.
D'accord. Et donc, tu es donc passé en fait d'un cursus qui était relativement conventionnel avec une agriculture et une recherche, on va dire plutôt conventionnelle avec le CERAFEL, à aujourd'hui, ça fait un moment que tu accompagnes
L'agriculture biologique.
le mouvement, alors l'agriculture biologique, et aussi particulièrement, c'est comme ça qu'on s'est connus, particulièrement le mouvement donc des paysans boulangers. Est-ce que tu peux nous parler du mouvement des paysans boulangers?
Alors, les premiers, je les ai rencontrés, c'est notamment Nicolas Suppiot, bien avant 2000, hein, ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît. Et bah parce que finalement, j'ai toujours été intéressée par le bio, j'ai toujours mangé bio. Et donc, ça m'a amené à connaître l'agriculture biologique. Et c'était au moment où on commençait à se poser des questions pour les semences. Et c'est mon cursus de 15 ans en station d'amélioration des plantes était quand même très, très formateur. Parce que j'ai vu, notamment l'exemple des choux. Parce que quand j'ai commencé sur les choux, c'était la fin des variétés population et l'ambition, c'était de passer aux hybrides et fins.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer très simplement, le plus simplement possible, ce que c'est qu'une variété population et les hybrides?
Oui, alors pendant des centaines d'années, des millénaires, enfin depuis que l'agriculture est née, l'agriculteur a toujours travaillé des plantes cultivées, mais sous forme de population. C'est-à-dire que c'est un ensemble de plantes, toutes génétiquement di différentes, plus ou moins différentes selon qu'on a du blé ou du maïs, mais néanmoins c'est toujours un ensemble de plantes différentes, même si le produit paraît presque homogène, pour s'adapter et continuer d'évoluer toujours avec l'environnement et les pratiques. C'est toujours des plantes en évolution. Et justement, les producteurs bretons du Nord-Bretagne avaient tout un ensemble de populations de choux qu'ils ont créées à la fin du 19e, hein, parce que le chou est arrivé très tardivement en Bretagne, il est passé par l'Angleterre, et en fait, le berceau du chou-fleur, c'est l'Italie. Et c'était un bel exemple de voir comment des agriculteurs du Nord-Bretagne ont adapté eux-mêmes des populations, ils en avaient beaucoup de populations. Et dans les années, à la fin des Oui, dans les années 70, début des années 80, ils étaient les derniers producteurs à produire encore avec des populations, alors que tout le reste de l'agriculture était déjà passé aux variétés modernes entre guillemets, standardisées, puisqu'on a développé à la fin, juste après la Seconde Guerre mondiale avec l'INRA, c'était l'idée de la variété fixée,
Voilà.
homogène et stable pour le développement d'une agriculture industrielle où on puisse avoir des filières bien
Une belle
dans
productivité, partout la même, quel que soit
Et
le
surtout des
terroir.
plantes qu'on puisse retrouver identiques d'une année sur l'autre
Oui.
pour pour améliorer la technicité agricole basée sur des intrants, pouvoir faire de l'expérimentation où au moins tout ce qu'ils appelaient le matériel végétal était fixé. Mmh. Et donc c'est tout un autre paradigme, une autre façon de penser le vivant. Mmh. Et ça s'est propagé à toutes les espèces. Donc la première à subir cette homogénéisation, c'était le blé, dans le 19e siècle, avec les lords anglais qui repéraient le plus bel épi. Mmh. Et c'est celui-là qu'ils ont reproduit. Donc l'idée de... d'améliorer et aussi de reproduire un standard. Et aussi, en même temps, il y a eu cette notion de compétence. C'est-à-dire tout le monde n'était pas capable de faire, de repérer le bel épi, de le multiplier à l'identique. Donc petit à petit...
Et que les paysans, peut-être, n'étaient pas capables de le faire. Parce que ce travail, c'est ce que faisaient. Ça avait fait, pendant des siècles, les paysans faisaient ce travail de sélection.
Faisaient ce travail de sélection, mais avec sagesse. C'est-à-dire que ce n'était pas toujours le plus bel épi, parce que l'année d'après, ça fait une autre plante.
Adapter à une certaine manière de cultiver et à un territoire particulier. Voilà, alors que dans le cas, effectivement, de cette sélection par des scientifiques, c'était laisser faire les professionnels, laisser faire les scientifiques.
Voilà, mais petit à petit, ça s'est passé sous... les fourches codines de la science, mais au départ, c'était des sélectionneurs. D'accord. Pendant longtemps, ça a été des sélectionneurs. Le monde scientifique s'est investi dans la sélection, c'est avec le maïs aux États-Unis, première moitié du XXe siècle, mais pour le reste, c'est quand même plus récent. C'est avec l'INRA, toutes les stations d'amélioration des plantes, il y a aussi en Suède, ça s'est mis en place avec l'Institut Swallow. Enfin, il y a eu plusieurs institutions qui ont pris en main justement la modernisation de l'agriculture via la semence. C'est quand même le département d'amélioration des plantes à l'INRA, ça a quand même été le département phare pendant des dizaines et des dizaines d'années à l'INRA pour arriver à tout cet ensemble de variétés pour l'agriculture cultivée, stable, homogène et fixe. Et tout le monde doit passer.
Les hybrides.
Les hybrides et les lignées pures.
Les lignées pures.
Et bon, il y a une.
Et puis les OGM.
Alors, les OGM, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est une technique de création de caractères, mais on peut aussi bien les avoir dans les lignées pures que dans les hybrides.
D'accord.
Un OGM, c'est une technique de création de caractères, de fixation de caractères, mais c'est pas... La structure hybride ou lignée pure dépend de la biologie de l'espèce. Soit elle se reproduit par croisement, soit elle se reproduit en autofécondation.
Mm-hmm. Mais dans la pensée, dans la logique... On est un petit peu sur la même logique, c'est-à-dire...
C'est pouvoir normaliser la semence, voilà. Pouvoir la reconnaître, bien la décrire, pour qu'elle rentre dans un circuit commercial. Voilà. La semence paysanne, elle est même pas descriptible. Les choux populations avec lesquels j'ai travaillé au départ, leur nom, c'était le nom du paysan qui l'avait produite, le mois de production et l'année de production. Et éventuellement, le lieu dit d'où il a sélectionné. Donc c'est... Ça changeait tout le temps.
Et le paysan ressème.
Le paysan ressemait, resélectionnait. Bon, bien sûr, il y a toujours des paysans plus doués en sélection que d'autres. Donc certains allaient chercher la graine chez le paysan voisin pour être sûr. Parce que tout le monde ne se sentait pas doué pour faire sa semence. Mais c'était une gestion communautaire et locale de la production de semences.
Et on a une idée aujourd'hui de ce champ-là, de la semence paysanne aujourd'hui en France et dans le monde, c'est encore beaucoup, beaucoup de paysans et
c'est de plus en plus de paysans.
Qui ressèment. Oui.
C'est de plus en plus de paysans. C'est la reprise de conscience des limites de la variété moderne, parce que pendant longtemps, quand même, la variété moderne a pu montrer ses capacités à produire plus dans un environnement donné, quand l'environnement n'avait pas... Parce que entre... Les terres, elles avaient quand même un potentiel tant qu'elles ont été cultivées par des paysans. Donc quand on a mis des variétés modernes avec toutes les potentialités biologiques des sols plus les intrants, on a eu l'illusion qu'on allait produire beaucoup plus. Mais très rapidement, surtout dans les pays du Sud, où le climat use plus vite les sols et où les pathogènes arrivent plus vite, où ce qu'on appelle les bioagresseurs se multiplient plus vite, les limites des variétés modernes sont apparues plus vite. Et c'est là que déjà dans les centres internationaux de recherche, on a commencé ce qu'on appelle la sélection participative sur les variétés paysannes locales, parce qu'il y a des endroits qui sont devenus rapidement incultivables avec les variétés dites de la Révolution verte. Donc cette idée de remettre des variétés paysannes dans des endroits difficiles, ça a plus de 20 ans dans les pays du Sud. Mais à des vitesses différentes. Là, je suis par exemple Vivi, qui est une collègue indienne. On s'est vu il y a 6 ans en Australie, un colloque bio. Ça faisait 3-4 ans aussi qu'elle remettait en route la variété paysanne dans son coin. On se suit exactement en parallèle. Et là, on s'est revus en Corée il y a 3 mois. Elle en était au même stade que nous, Pays Blé. D'accord. C'est-à-dire qu'avec ses variétés anciennes, elle refaisait de l'expérimentation agronomique pour la qualité. C'est très rigolo de voir que dans des contextes culturels complètement différents, on est complètement en phase de faire en même temps la même chose pour une renaissance d'une agriculture paysanne.
Là, c'est un message quand même qui est un message d'espoir que tu nous donnes. Tu nous expliques que ce qui a été semé il y a maintenant donc une vingtaine d'années, on va dire, de remettre au goût du jour donc ces variétés populations et puis de redonner fierté aussi au travail de ces paysans qui sélectionnaient et qui continuent de sélectionner, et ben aujourd'hui c'est en train d'émerger, d'avancer. Et d'ailleurs, moi, je voulais demander à Estelle Serpollet qu'est-ce qu'elle en pense de cette renaissance et pourquoi toi aussi tu souhaites faire avancer la recherche dans ce sens-là.
Alors pourquoi je souhaite faire avancer la recherche dans ce sens-là, c'est parce que je trouve que c'est un domaine très très intéressant où en fait on regarde vraiment la vie en fait, on essaye de comprendre comment elle marche, comment elle peut s'exprimer selon les endroits, selon ce que les gens ils veulent en faire, comment est-ce qu'on peut finalement s'en servir, mais je dirais sans la mettre dans un carcan. C'est-à-dire vraiment quelles sont les potentialités que l'on peut tirer en fait de ce qu'on a sous la main, de manière intelligente, ingénieuse et tout ça, sans forcément aller dans la technicité, la technicité à tout bout de champ, quoi.
Alors, ça veut dire que vous êtes des scientifiques qui ne cherchez pas à maîtriser le vivant ?
Non, je pense qu'on cherche d'abord à l'observer, ouais, pour essayer de voir un peu comment il fonctionne, et pas forcément à l'adapter à des techniques industrielles, mais de l'observation de son comportement. Nous, en tant que scientifiques, et les agriculteurs en tant que paysans qui travaillent tous les jours avec ce vivant-là, comment est-ce que nous aussi on peut s'adapter par rapport à ce qu'on observe pour produire quelque chose de manière intelligente pour les gens qui vont manger les produits après, pour le sol, pour l'environnement, le paysage, enfin voilà, pour tout l'environnement au sens large du terme dans lequel on évolue.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce mouvement-là, des paysans boulangers et du programme Pays Blé ?
On va revenir à Nicolas Supiot. Oui. parce que lui, quand il a voulu faire du pain au levain, la variété moderne n'optimisait pas la qualité du levain, évidemment, parce qu'elle n'a pas été sélectionnée pour ça. Les variétés modernes ont été sélectionnées pour une boulange industrielle, pour que ce soit une pâte élastique, pour une boulange plus facile avec des outils de l'industrie. Et quand on veut revenir à une boulange traditionnelle, c'est pas du tout la même qualité. Il faut bien voir que la sélection, elle est faite pour un objectif, et les variétés modernes correspondent à un objectif de process moderne de l'agro-industrie, et pas du tout à des pratiques paysannes. Donc la première chose qu'il fallait faire, c'est retrouver les plantes pour pouvoir faire un pain boulanger. Et c'est avec lui qu'on a commencé à regarder les variétés anciennes. Donc il y avait Jean-François Berthelot à la même époque aussi qui s'intéressait. Il y avait Bernard Renault aussi en Bourgogne. Il y a quelques pionniers comme ça dans la fin des années 90 qui ont lancé cette recherche de la variété paysanne.
Oui, et alors souvent on peut aller sur des marchés dans le Périgord ou en Ardèche, et là souvent quand on trouve un pain absolument magnifique et qu'on commence à causer au paysan, avec le paysan, de son pain, et là, à chaque fois on a Nicolas Supiot, le mouvement des paysans boulangers. Et en fait, c'est vraiment toute une histoire autour, au départ, je crois, de la fameuse collection des blés de Redon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à Montpellier, je crois, ou à Clermont-Ferrand.
Soit
à Clermont-Ferrand, il y avait une collection donc de blé dit de Redon.
Elle est partie d'ici, en fait. C'est mon collègue Gérard Doucineau qui avait besoin de gènes de résistance pour améliorer la rusticité des blés modernes. En fait, c'est quand même un pionnier, c'est un agronome. Véritable agronome qui savait reconnaître les plantes et bien de voir quand même d'aller vers une rusticité des blés plus que d'aller vers un rendement maximum et surtout une certaine qualité. Et il avait repéré que les variétés populations qui restaient encore dans les années 70 dans les champs bretons exprimaient une plus grande rusticité par rapport aux maladies, peut-être que le pied adverse. Donc il a ramassé toute une collection pour espérer introduire ce caractère de rusticité des variétés anciennes dans les variétés modernes. Et c'est lui qui a créé Renan.
D'accord.
Ce blé qui est cultivé très très largement par l'agriculture biologique depuis des années et des années.
D'accord.
Renan, c'est le bon blé moderne pour les agriculteurs biologiques. Et donc c'est Gérard Doucineau qui a collectionné tout ça pour... dans le but de ramasser justement et pas perdre cette rusticité des blés anciens.
Non seulement il a collectionné, mais il a ressorti aussi, il a donné l'impulsion pour que cette collection puisse...
Non, cette collection, en fait, c'est nous qui sommes allés la rechercher.
D'accord, vous êtes allés la chercher, d'accord.
Ouais. Parce qu'elle n'avait pas été faite dans le but de ressortir telle qu'elle. Elle avait
d'accord.
été faite pour entrer en banque de gènes, comme on appelle
d'accord.
aujourd'hui les
d'accord.
centres
d'accord.
sur génétique.
D'accord,
c'est rare pour faire des croisements.
Ouais.
D'accord. Mais néanmoins, il a eu quand même l'intuition de garder ce patrimoine blé, parce
d'accord.
qu'il n'y a quand même qu'au niveau de Redon qu'on a gardé... l'ensemble de ce que pouvaient être les variétés paysannes d'une région. Sinon, on a bien un exemple du blé de Haute-Loire, un exemple de blé alsacien, un exemple... Pour les autres régions, on n'a que un ou deux ou trois exemples du blé régional. Là, on en a 300.
300
ouais. En fait, 300, c'est pas 300 populations, mais c'est 300...
Descendants
d'épis. Mais qui représentent quand même une grande variabilité et la variabilité de ce qu'il y avait à l'époque. Et ça, c'est une richesse.
D'accord.
Mais on a la même chose en choux.
D'accord.
C'est-à-dire que les populations de choux ont été ramassées dans les années 80, puisque elles étaient encore toutes présentes, sous l'impulsion d'un programme européen. Dans les années, début des années 80, Bruxelles a décidé qu'il fallait ramasser toutes les populations paysannes qui restaient dans les champs en Europe et que chaque centre de recherche avait en charge quelques espèces. Et nous, on avait aussi les choux. Hein.
D'accord.
Donc, on a 800 populations de choux à Rennes. Bon, se distribuant en choux fourragés, choux fleurs, choux paumés, mais qui représentent toute la diversité paysanne du Grand Ouest de la France des débuts des années 80. Donc pour la plupart des espèces, ça a été fait.
D'accord.
Donc aujourd'hui, c'est de les sortir.
Ok. Alors donc aujourd'hui, c'est de les sortir. Là, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a une certaine conception quand même de la recherche qui fait qu'on les ressort ou qu'on ne les ressort pas. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a maintenant aussi la question des droits à payer. Comment aujourd'hui, c'est quoi la législation et comment vous vous positionnez par rapport donc à la loi qui vient d'être votée sur l'obtention végétale?
Alors là, c'est un peu... Il faut remonter au début, justement, qu'au moment où on a dit qu'il y avait deux options de variétés. Donc, il y a ces variétés population qui ont été mises en centre de ressources génétiques. Ça a commencé très tôt avec la Vilof, aussi en Russie, aux États-Unis dans les années 50. Donc, on a tout un patrimoine qui est conservé dans ce qu'on appelle les banques de gènes, ou centres de ressources génétiques. Et en parallèle, il y a eu l'évolution, les variétés modernes, qui toutes passent par l'inscription au catalogue officiel. Et justement, nos paysans boulangers, en ayant ressorti ces variétés de ressources génétiques, sont un peu en porte-à-faux par rapport à la législation, puisqu'ils ne rentrent pas sous le coup du catalogue, puisqu'ils n'achètent pas leurs semences et les reproduisent. Ils ne sont pas proprement dit aussi ressources génétiques, parce qu'il y a toute une règle autour des ressources génétiques, il y a le traité international des ressources génétiques, il y a des conventions. Et là, en fait, ils représentent une voie qui n'est même pas entre les deux, c'est une voie nouvelle des variétés paysannes, et qui sont produites à la ferme. Et en ce moment, justement, on essaie de légiférer à propos des semences de ferme. Alors les semences de ferme, c'est à la fois la multiplication de variétés issues du catalogue. Pour les bosserons, par exemple, ils avaient l'habitude de reproduire une partie de leurs semences pour ne pas acheter tous les ans la semence certifiée. Celle qui sort du catalogue, elle suit tout un processus et aboutit sous forme de semences certifiées dans les coopératives. Et puis, il y a, d'autre part, il y a les paysans, tels que les paysans boulangers, qui ont redéveloppé et qui ont resélectionné à partir des ressources génétiques pour se faire leur propre semence paysanne. Et justement, cette loi qui est votée aujourd'hui oublie, ne veut pas tenir compte de l'existence de cette nouvelle voie de semence, qui n'est pas simplement des semences de ferme, on les appelle semences paysannes, en fait elles sont semences paysannes de ferme. La définition de la semence de ferme, c'est la semence certifiée reproduite à la ferme. Donc quand il légifère sur justement que le paysan paye une redevance sur la propriété intellectuelle de ses semences certifiées, bon, il y a une certaine logique industrielle, il y a un travail de sélection qui a été fait par les sélectionneurs, donc ils essaient de retrouver leur mise. Et déjà, ça existait pour le blé, ça s'appelait la contribution volontaire obligatoire.
D'accord.
Et c'était prélevé en coopérative sur la quantité vendue. Mm-hmm. C'est-à-dire quand le blé arrivait, celui qui avait été pas, pour lequel ils n'avaient pas payé la semence certifiée, ben, il reprenait les royalties à la sortie.
D'accord.
Donc le système se tenait, puisque c'était de toute façon des semences qui étaient passées par les sélectionneurs, il y avait une propriété intellectuelle dessus. Donc finalement, ça n'a pas fait trop de bruit il y a quelques années, l'arrivée de la CVO. Mais là, cette fois-ci, ils veulent étendre à plusieurs espèces, et non pas aux produits vendus, mais à la surface cultivée.
D'accord.
Donc, chaque agriculteur qui semencera du blé devra des royalties, une taxe pour les sélectionneurs. Mais c'est faire fi de l'existence des semences paysannes. Parce que les semences paysannes, elles ne sont pas issues du travail des sélectionneurs, mais issues du travail de paysans. Tout ce qui est dans les ressources génétiques, c'est du travail de paysans. Donc, les paysans ne sont pas du tout contents d'avoir à payer une taxe sur leurs propres semences pour aller payer la recherche. Et surtout si la recherche aboutit à des OGM qu'ils combattent.
Absolument.
Donc il y a, en fait, il y a une extension des royalties à quelque chose pour lequel c'est pas adapté. Alors il y a certains paysans déjà, quand ils ont une certaine surface, qui font la démarche de se faire rembourser leur CVO quand ils démontrent que c'est vraiment leur semence paysanne. C'est possible, ils remboursent.
D'accord.
Mais c'est à démontrer a posteriori qu'on n'est pas concerné par la loi. Et donc cette loi, elle ne tient pas compte de la réalité. Et justement, cette réalité, on a commencé à la décrire sur des budgets européens. C'est à travers ce projet qui s'appelle Farm Seed Opportunities. Et c'est dès 2007 que la Commission s'inquiétait du fait qu'il... C'est à propos d'une autre loi qui s'appelait sur des semences de conservation. Parce qu'au niveau de la Commission européenne, on s'inquiétait quand même avec les variétés modernes du catalogue. Cette loi unique ne laissait pas de place au patrimoine culturel et agricole des différents pays, surtout par exemple en Italie, le pays du Sud, qui
bien
travaille
sûr.
Encore beaucoup avec
bien
les
sûr.
Populations locales. Ils ne trouvaient pas de place pour ces variétés et ils ont appelé les variétés de conservation.
D'accord.
Et alors, ils ont voulu faire rentrer ces populations paysannes sous un catalogue spécial appelé semences de conservation, moyennant un minimum d'homogénéisation et stabilisation des variétés. Et ils n'arrivaient pas à faire aboutir la loi parce que finalement, il y avait quand même un paradoxe, c'est-à-dire ce qui a toujours vécu chez les paysans, toujours évolué, toujours à s'adapter à l'environnement, le législateur a dit, pour le conserver, on va le mettre dans un catalogue en le stabilisant. C'est-à-dire, c'était un outil qui était complètement inadapté à la nature même des variétés qu'ils voulaient protéger. Et donc, au niveau de la commission, ils ont voulu se faire aider de chercheurs pour mieux comprendre le fonctionnement de ces variétés, quelle était la situation en Europe des variétés, quelles sont les variétés modernes, conservation et paysanne. Ils ont voulu savoir ce qui se passait. Et donc, on a été financés pendant 3 ans. Donc, 11, c'est 6 pays et 12 organisations. Donc, le projet a été conçu sous une forme participative parce que c'est un projet de recherche qui associe à la fois des organismes de recherche et des réseaux semences paysannes et l'organisation bio italienne. Donc on avait moitié, pas tout à fait moitié, mais une grosse partie, les chercheurs s'étaient accompagnés de personnes du terrain pour mieux faire cet état des lieux et faire des propositions réglementaires pour Bruxelles, pour justement pallier les manques de les variétés catalogues, les manques de variétés de conservation et faire le point entre les réglementations catalogues et aussi tout ce qui existait en matière de réglementation à propos des ressources génétiques. Donc on a fini au printemps 2010, c'est-à-dire il n'y a même pas encore un an, et on a sorti ce petit booklet qui explique notre démarche, nos conclusions et nos propositions.
Donc là, il y a quand même une situation aujourd'hui qui est un peu, qui est un peu étrange. C'est-à-dire que après avoir vraiment bataillé ferme pour pouvoir avoir le droit de semer des semences paysannes, aujourd'hui, ce sont les mêmes qui, après avoir eu à peu près le droit de faire leur pain avec des semences issues de blé population, ceux-ci vont être obligés de payer effectivement pour être sur un catalogue. Bon, et d'une certaine manière, de stabiliser leurs semences, alors que eux, justement, pensent que les variétés n'ont pas à être stabilisées.
Non, mais de toute façon, on en reste là. C'est-à-dire que même, en même temps qu'on faisait ce projet, il y a eu une enquête au niveau de la commission Bruxelles qui s'appelait Better Regulation, donc financée par Bruxelles, et la conclusion. Alors, Better Regulation, c'est qu'aussi, il y a des faiblesses dans la loi, telle que la loi est faite, les lois semences au niveau européen, même du catalogue, et les sélectionneurs ne sont pas encore aussi satisfaits. Donc, Better Regulation, c'était de voir tous les acteurs qui sont impliqués par la semence, de faire le point et de faire des propositions aussi bien pour les variétés du catalogue que pour les variétés pour le reste. Et ils ont bien fait, en conclusion, celui qui était en charge de cette enquête a bien montré qu'il y avait deux systèmes en Europe. Le système dit formel qui rentre par la commercialisation de semences dites certifiées, et un système plus informel tel que dans tous les pays du Sud, où c'est une autoproduction de semences qui ne passe pas par le marché. C'est-à-dire qu'on veut faire... on oublie qu'il y a quand même tout un système semencier qui ne passe pas par le marché des semences, qui ne sont pas vendues, qui sont échangées. Et donc au niveau de Bruxelles, c'est bien reconnu qu'il y a deux systèmes. Mais au niveau national encore, c'est tout cet état des lieux, tous ces rapports ne sont pas encore passés dans les faits législatifs. Même nos propositions au niveau de Pharmacy d'Opportunities, on a tout un travail pour les faire passer au niveau législatif. On a un nouveau projet européen qui s'appelle Solibam, Strategy for Organic and Low Input Breeding and Management, donc qui prend le relais de Pharmacy d'Opportunities avec les mêmes interlocuteurs, aussi bien à Bruxelles mais aussi au niveau national, pour faire intégrer ces nouvelles données que n'ont pas nos législateurs encore nationaux. Et c'est de créer, on a besoin quand même de créer ce qu'on appelle une loi dite positive pour les semences paysannes, qui n'est pas celle qu'ils ont déjà, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore des ressources génétiques. En fait, tout est à créer. Et je me souviens de ce qu'avait dit Jean Vorer, qui travaille au CNIS et qui suit beaucoup ce qu'on fait en agriculture biologique. En 2003, au niveau des rencontres d'Osville, qui était l'événement fondateur des réseaux semences paysannes, il avait bien dit on ne peut pas légiférer ce qui n'existe pas. Donc commencer par exister, on verra après. Mais la reconnaissance de notre existence est un peu lente, mais bon, ça ne fait pas 10 ans, donc il n'y a pas encore trop de retard. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils ont pris une position un peu trop... oubliant vraiment qu'il y avait une autre alternative. Mais les décrets d'application ne sont pas sortis de cette petite loi. Donc les paysans se mobilisent, il y a certains élus qui commencent à réfléchir avec eux sur des propositions alternatives. Donc elle n'est pas encore appliquée. Elle existe, mais elle n'est pas appliquée.
Alors tu l'appelles la petite loi, parce qu'effectivement...
Elle est en formation, elle n'est pas stabilisée,
D'accord. Mais si elle s'applique, parce que quand même il faut expliquer ce que ça peut faire, hein, quelles conséquences elle peut avoir. Si elle s'applique, et on va quand même s'y mettre à plusieurs, et je vois que ce mot, la biodiversité, est toute une plateforme avec des ONG quand même qui savent s'organiser et que les choses vont avancer. Mais si cette petite loi s'appliquait, qu'est-ce que ça donnerait pour les paysans boulangers, qu'est-ce que ça donnerait aussi pour Cocopelli? Ça veut dire qu'on doit payer pour chaque variété et en plus on paye à la surface.
À la surface, oui. L'idée, c'est de voir comment s'organiser. Il y a plusieurs idées. Certains se font rembourser quand ils démontrent qu'ils n'ont pas semé des variétés assez OV, des variétés qui sont protégées par un certificat d'obtention végétale. Donc ça, c'est une première démarche. Il faudra peut-être
se faire rembourser.
Mais bon, c'est quand même pas logique Mais entre les décrets d'application, il y a tout ça. Bon, il y a déjà cette première étape à faire.
Oui.
Et il faut qu'on continue de travailler pour créer ce qu'on appelle une loi positive qui décrit cette activité de semence paysanne. Et peut-être que ça va activer les choses. Il faut toujours regarder le côté positif.
D'accord.
Donc, momentanément, on a l'impression que ça bloque, mais peut-être que ça permet d'en parler plus.
D'accord.
De justement mettre mieux en valeur notre travail de recherche
D'accord.
qui est en parallèle et d'aller plus vite pour mettre en musique réglementaire nos propositions de reconnaissance
D'accord.
positive de la semence
D'accord.
paysanne.
Donc, ce que tu expliques, c'est que par rapport à cette petite loi, eh ben, à nous de faire effectivement du débat autour des variétés populations, autour
voilà.
Effectivement des semences paysannes. Et puis aussi, eh bien, qu'il y a un vide législatif de ce point de
vue. À combler, voilà.
Et que là, il y aurait une loi positive donc, à rédiger pour effectivement reconnaître le travail de sélection paysanne.
Oui, parce que dans la conclusion de PharmSeed Opportunities, quand je discutais avec nos collègues de Bruxelles qui sont en, loi qui sont en classe pour réfléchir aux lois semences, je me dis, mais les Français, vous l'avez trouvé la solution pour vos semences paysannes. C'est vos organisations associatives où les variétés populations n'appartiennent pas à l'agriculteur, mais sont patrimoine d'une association, et vous les échangez entre vous. Mais c'est normal, il n'y a pas d'échange entre agriculteurs, puisque c'est une redistribution du bien de l'association. Et au niveau de la commission, cette organisation leur semblait très cohérente par rapport à l'activité semences paysannes. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on communique. En fait, on a les bases pour communiquer là-dessus. Mais il faut aussi cette loi positive, on pourrait se dire, nous on se défend, on se met dans un système à part. Non, il faut quand même cette loi dite positive de reconnaissance des semences paysannes, parce qu'il y a toujours des vilains petits personnages qui veulent faire un commerce d'un nouveau concept. Et on peut voir arriver des gens qui se disent « moi je fais des produits paysans » et faire ça avec des OGM. Donc nous, ces semences paysannes, il faut qu'on les décrive bien, qu'ils correspondent bien à notre activité, c'est-à-dire des variétés naturelles. Je vais prendre le terme que utilisent les Coréens, des variétés natives, c'est-à-dire des variétés issues du travail paysan, dans lequel il n'y a pas de travail de sélection moderne d'introduite, pas de biotechnologie, pas de gènes extérieurs, quoi, quelque chose qui soit vraiment natif, qui a évolué avec les besoins des paysans. Ça va être le moyen aussi, et dans des techniques paysannes, pour des produits paysans, mais qui sont décrits. Et c'est la façon de faire, c'est le processus qu'il faudra, disons, bien décrire pour qu'il ne s'infiltre pas des gens qui veulent exploiter notre filon pour en faire commerce, c'est-à-dire garder l'éthique de la semence
D'accord.
paysanne intacte. Donc, comme on est dans une société, on est obligé de cadrer un peu une activité, elle ne peut pas rester marginale. Et c'est l'occasion pour sortir de la marginalité, et justement d'avoir une reconnaissance. Et c'est pratiquement le titre d'un projet qui vient d'être accepté par le ministère de l'Écologie, c'est reconnaissance sociale et juridique des semences issues de sélections participatives pour les agricultures biologiques et paysannes. Donc les choses s'enchaînent logiquement, c'est qu'il y a un retard de communication, il y a aussi nos décideurs et nos politiques qui ne sont pas tout au courant de ce qui se passe. C'est normal, on vient de sortir le truc, ça fait pas longtemps qu'on le distribue, donc c'est nous qui n'avons peut-être pas assez de moyens
D'accord.
pour communiquer. Donc aujourd'hui,
D'accord.
c'est peut-être le moyen de dire, écoutez, décideurs politiques, élus, allez plus sur le terrain, faire connaissance de du nouveau paysage agricole européen. Il n'y a pas que l'agriculture conventionnelle et on cherche à valoriser des zones qui ne sont pas valorisables par des variétés modernes. Parce que l'avantage de ces variétés paysannes, c'est qu'elles s'adaptent partout. Et justement, c'est dans les pays du Sud, c'est là où on ne pouvait plus produire rien du tout, qu'on a développé ces semences paysannes qui arrivent à faire vivre des gens n'importe où. Donc justement, il faut tirer parti
D'accord.
de cette situation pour pouvoir parler
D'accord.
de D'accord. l'autre qui n'est pas prise en compte.
D'accord. Alors, Véronique Chable a un message qui est positif et plein d'espoir et... Mais bon, c'est un message très actif, parce que ça veut dire que derrière, il va falloir encore plus se coordonner, encore plus communiquer sur cette question. Est-ce que, Estelle, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce message très tonique, positif, mais pas d'un positif, mais pas, je dirais, BA, c'est-à-dire aussi, je pense, un peu de résistance. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour compléter
Je peux vous expliquer un peu comment on fait sur le terrain
oui.
pour répondre à ce message positif.
Ouais.
Et par exemple, avec le projet Pays Blé, quand on parle des semences de variétés modernes, issues du catalogue, enfin, certifiées du catalogue et des semences paysannes, voilà, des questions qu'on se pose avec les agriculteurs, c'est est-ce que, dans quelles conditions les variétés paysannes, comment réagissent les variétés paysannes dans différents environnements, comment réagissent les variétés modernes dans ces mêmes environnements et quelle variété est adaptée à quel environnement, bien qu'il n'y ait pas une réponse claire, mais du coup, sur le terrain avec Pays Blé, c'est ça qu'on essaye de voir, c'est de montrer les potentialités des variétés paysannes, explorer leur comportement, observer ce qui se passe de manière scientifique pour pouvoir apporter finalement des exemples et des outils scientifiques, enfin j'allais dire des preuves. Mais bon, en biologie, je ne sais pas si on peut avoir des preuves certifiées, mais au moins, voilà, décrire ce qui se passe de manière scientifique pour pouvoir aider les décideurs à prendre des décisions. C'est-à-dire avoir des exemples concrets de ce qui se passe. Par exemple, les paysans, c'est quelque chose qui est connu par beaucoup de paysans, que les variétés anciennes, bon, dites anciennes, hein, c'est-à-dire qui viennent du patrimoine génétique paysan et qui n'ont pas été sélectionnées par les sélectionneurs. Donc ces variétés-là ont un potentiel de rendement beaucoup plus faible que les variétés modernes, mais par contre, elles ont un rendement qui reste stable, c'est-à-dire elles sont toujours globalement autour de leur potentiel de rendement, quasiment quelles que soient les conditions, c'est-à-dire que les conditions soient très bonnes pour du blé ou que les conditions soient mauvaises, donc c'est-à-dire des terres pauvres, etc., eh bien, les variétés paysannes ont tendance à toujours donner à peu près le même rendement. Alors qu'une variété moderne, les paysans ils disent, bah, une variété moderne en bio, dans des très bonnes conditions, mettons par exemple le bassin rennais, ça donne un très bon rendement en bio. Par contre, vous les mettez dans des terres plus pauvres, je pense à un agriculteur à côté d'Angers, dans des terres sableuses, avec un sol très peu profond, eh ben, là, il se casse la margoulette, cette variété se casse la margoulette et donne moins de rendement que les variétés paysannes. C'est-à-dire qu'on a des écarts de rendement énormes selon les différences d'environnement. Et ça, c'est quelque chose que les paysans ont tendance à dire. Eh ben, dans notre expérimentation de Pays Blé, on le montre en fait de manière concrète, avec des chiffres qui parlent, j'ai envie de dire, à tout le monde, parce qu'on le fait de manière... On fait de l'expérimentation agronomique et grâce à ces expérimentations, on peut apporter des éléments concrets voilà, qui étaient pressentis par les agriculteurs. Mais voilà, là, on peut vraiment le montrer à tout le monde et ça peut apporter de l'eau au moulin de la réglementation pour dire, ben voilà, ces variétés paysannes, elles ont un intérêt. Donc, comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour que les circuits législatifs les reconnaissent, quoi.
D'accord. Et voilà. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, Estelle, que ta démarche scientifique, on va dire implicative par rapport aux parties prenantes, en l'occurrence par rapport aux paysans, c'est une démarche qui a de l'avenir en recherche publique, à l'INRA? Comment ça se passe? Est-ce que tu penses que vous allez être nombreux et nombreuses à avoir ce type de démarche?
Je ne sais pas si on va être de plus en plus nombreux. Je pense que oui, parce que les étudiants, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent nous demander des stages, parce que je pense que c'est un sujet en fait qui interpelle beaucoup, parce que finalement, à partir du moment où on se pose la question de qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, si on commence à réfléchir, on enchaîne vite sur ces thèmes de la manière de produire. Et la variété, c'est une partie intégrante, enfin c'est vraiment un élément clé du système de production. Donc il y a pas mal de jeunes qui commencent à se sensibiliser par ça. Ce qui plaît aussi beaucoup aux étudiants, et enfin moi ce qui m'a plu aussi en fait quand j'avais fait mon stage de mémoire et que j'avais rencontré Véronique, c'est faire de la recherche mais pas déconnecter du système de production. C'est-à-dire pas forcément être dans le développement où on va chercher une efficacité tout de suite, mais essayer d'aller chercher des clés de... Enfin, les clés du vivant, c'est un peu prétentieux, mais c'est-à-dire observer le vivant, savoir comment il marche, pour qu'on puisse s'adapter à lui, qu'on puisse un peu l'adapter à nos systèmes de production. Ben, vraiment, voilà, de la recherche, mais de la recherche qui soit pas déconnectée du champ, quoi. Et ça, je pense que ça plaît de plus en plus. Que la recherche soit pas en laboratoire et les agriculteurs dans leur champ, mais c'est qu'ensemble, on mette en place des moyens pour répondre aux questions qu'on se pose. Et donc ça, c'est pour le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce qu'on fait, de jeunes et de moins jeunes, parce que dans le public aussi, par exemple, quand on va sur des salons, des foires bio, où on explique notre démarche expérimentale, qu'on montre les semences, les gens, ils sont stupéfaits, même s'ils ne connaissent rien à l'agriculture. Mmh. Et quand ils mangent du pain que les paysans boulangers ont fait, ça leur ouvre les yeux sur certaines choses, des questions qui ne s'étaient pas posées avant. Mmh. Et puis...
En tout cas, nous, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on est venu à l'INRA, dans cette station qui s'appelle la station... comment ?
Ici ?
Oui.
Ah ben là, on occupe un bâtiment qui s'appelle la quarantaine des pommes de terre.
La quarantaine des pommes de terre. Nous sommes venus à la quarantaine des pommes de terre et nous avons rencontré des chercheuses hommes ou des chercheurs rocs, je ne sais pas ce que vous préférez. Heureuse, on ne sait pas, mais en tout cas, extrêmement enthousiaste sur leur domaine de recherche. Sur les avancées et qui vont certainement donner la pêche à d'autres pour poursuivre tout ce travail. Mmh. Et malgré ce que vous nous avez expliqué un peu, c'est-à-dire qu'il était peut-être plus facile d'aller trouver, c'est quand même toujours un peu le nerf de la guerre, hein, c'est de trouver les euros qui vont bien avec le travail que vous faites, qu'il est parfois plus facile d'aller trouver du soutien financier du côté européen, voire régional, qu'au plan national. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on repart requinqué avec une idée vraiment de l'INRA et de la recherche qui va bien avec, je dirais, l'agriculture plus proche du terrain et plus paysanne, comme on le souhaiterait.
Oui, et cette recherche, elle vient aussi des paysans. Oui, c'est-à-dire qu'on a de l'avenir dans le sens où les paysans, ils nous posent toujours plus de questions. Et pas forcément, on veut une variété qui soit comme ça, c'est « mais qu'est-ce qui se passe dans mon sol ? Mais qu'est-ce qui se passe dans ces variétés ? Et pourquoi si ? Et regarde, j'ai remarqué ça, alors est-ce qu'on pourrait pas essayer de fouiller un peu par là ? » Donc en fait, les paysans prennent en main un peu la recherche qu'ils veulent. Et, c'est-à-dire c'est une recherche qui regroupe les paysans, les chercheurs, et les acteurs de la société, finalement, parce qu'elle touche tout le monde.
Et on est en plein notre rôle de recherche publique. Mmh.